Ce matin, je nous invite donc à continuer à parler du Saint-Esprit, également en continuité aussi de nos réflexions de ces dernières semaines concernant la sanctification, le chemin de gloire en gloire du chrétien, comme nous l'avons vu il y a quelques dimanches. Peut-être plus modestement, le cheminement pas à pas dans la croissance spirituelle. Notre identité même de chrétien, c'est l'œuvre de l'Esprit, nous le savons. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas, dit de façon catégorique la parole, ainsi par définition. Il n'y a pas de vrai ou de faux chrétien. Les chrétiens, quiconque a le Saint-Esprit, et inversement, celui ou celle qui ne l'est pas, qui ne l'a pas plutôt, n'est pas chrétien. Alors, nous l'avons lu tout à l'heure, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre capacité à connaître l'amour de Dieu, nous l'avons lu aussi. Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On est bien sûr aimé de Dieu, même quand on lui est encore rebelle, car Dieu est amour et Dieu aime le monde, tout être humain, même s'il déteste le péché que font les êtres humains. Et pourvu que le Seigneur révèle toujours davantage à ces personnes leurs problèmes du péché et son amour qui offre la solution en Jésus-Christ. Mais nous ne connaissons pas vraiment l'amour de Dieu avant notre conversion, avant que l'Esprit nous soit donné. Ce n'est pas possible pleinement sans lui. Et ensuite, nous grandissons. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance et dans le vécu de cet amour. Sanctification, croissance spirituelle. Et nous pouvons bien évidemment étendre cela à la capacité à connaître et à vivre les autres attributs de Dieu. Joie, paix, fidélité, justice, bonté, sainteté. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. Notre capacité à louer, à adorer, à prier. Cette capacité ou possibilité à effectivement être en communion avec Dieu. C'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Seule cette relation filiale en Jésus-Christ par le Saint-Esprit permet cette intimité hors du commun avec Dieu le Père. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet Esprit que nous crions, que nous pouvons crier « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. On peut bien sûr parler à Dieu ou l'écouter sans l'Esprit. On peut entonner de beaux chants pour Dieu. Et des tas de gens le font, et tant mieux, c'est déjà un début. Pourvu que le Seigneur se révèle toujours davantage à ces personnes pour qu'elles le connaissent réellement et personnellement. Mais il n'y a pas d'intimité réelle et vraie avec Dieu sans le Saint-Esprit. Pas de communion réelle et vraie avec Dieu sans le Saint-Esprit. Et ensuite, nous grandissons. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance et dans le vécu de cette intimité et de cette communion. Sanctification, croissance spirituelle. Notre capacité à rejeter le péché aussi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est là encore l'œuvre du Saint-Esprit. Mille et une facettes de l'œuvre exclusive du Saint-Esprit qui permet, qui crée, qui établit une réalité nouvelle dans le croyant à sa conversion et qui développe cette réalité nouvelle dans le chrétien tout au long de sa vie. En résumé, ce n'est pas un scoop, hein, tout nous vient de Dieu. Tout n'est possible que par Dieu. Depuis Pâques, c'est grâce à Jésus-Christ avec nous. Et depuis Pentecôte, cela se met en œuvre par le Saint-Esprit, Dieu en nous. Et après ces rappels généraux, je vous propose de creuser un peu quelques idées concernant le Saint-Esprit et la sanctification à partir d'un passage écrit par l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe. J'essaye, Pedro, voir si ça marche. Okay. Un Corinthien, et je lis à partir du dernier verset du chapitre 1. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse parmi les parfaits. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde. Sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant la fondation du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'être humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme, on lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit, lui, juge de tout, peut juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée de Christ. Nous avons pensée de Christ. Mais la 9, alors du coup, j'ai été trop vite. Okay. Faut-il être sage pour comprendre et recevoir l'Évangile? Faut-il être grand? Comprendre et recevoir l'Évangile? Évidemment non. Je ne vous apprends rien en rappelant cela, ce n'est évidemment pas un critère aux yeux de Dieu. Nul besoin de sagesse dans le sens d'érudition, d'intelligence intellectuelle ou de capacité à philosopher. Les règles de l'époque en étaient pourtant très friands et valorisaient énormément cela. Mais non, ce n'est pas un critère. Cela peut même parfois, voire souvent, mais pas systématiquement, heureusement, être un obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. La sagesse de Dieu est autre. Faut-il être grand, au sens de puissant, personne de pouvoir ou d'autorité, d'influence? Non plus. Paul pointe bien là encore que les grands de ce monde sont passés à côté de la bonne nouvelle de Christ. La puissance de Dieu est autre. Nous le savons, il faut, quelle que soit notre caution intellectuelle ou notre éducation, il faut, quel que soit notre niveau social ou notre place dans ce monde, une humilité, et même une sorte d'humiliation personnelle pour que la révélation par l'Esprit fasse son chemin et aboutisse. Ainsi, l'Évangile, contrairement à tout ce qu'il y avait à l'époque, et contrairement peut-être à beaucoup de choses qu'il y a aujourd'hui, l'Évangile n'est pas l'exclusivité de quelques privilégiés, même si nous sommes privilégiés en recevant cette grâce. C'est une grâce de la part de Dieu. L'Évangile offert à tous, même si malheureusement beaucoup le rejettent comme folie. Ainsi, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Recommandation, affirmation, reprenant l'idée de verset de prophète Jérémie. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci. D'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. Évidemment, ce n'est pas une source de gloire personnelle, mais de reconnaissance totale à Dieu, par Christ le Seigneur, d'une grâce reçue sans aucun mérite. Et comme le dit un commentaire, l'intention de Dieu a toujours été, afin de déraciner complètement l'orgueil du cœur de l'homme, que tout dans le salut gratuit tende à glorifier Dieu seul. Si le pécheur n'a rien qu'en Jésus-Christ, et si Jésus-Christ est un don de la pure miséricorde de Dieu, où sera la gloire de l'homme? C'est valable pour le côté réception de l'Évangile. Et c'est bien sûr totalement valable aussi dans le côté émission de l'Évangile aussi. Nous sommes en effet tour à tour émetteurs ou récepteurs. Ainsi Paul, il n'a pas été sage ou grand dans son annonce de l'Évangile à Corinthe, et ailleurs non plus d'ailleurs. Il s'est au contraire senti bien faible. Il était plein de crainte. Dans cette ville assez folle, très perturbée et certainement très perturbante, Paul n'avait pas non plus l'éloquence des beaux discoureurs et philosophes de l'époque, les beaux parleurs, peut-être plus trop politiques de nos jours, les désillusions ont déjà été grandes dans la matière, mais les beaux parleurs de bien-être, de spiritualité, de célébrité ou de richesse, les influenceurs, n'ont-ils pas encore aujourd'hui bien du succès auprès des gens? Alors que nous-mêmes, quand nous témoignons, quand nous partageons l'Évangile, quand nous voulons vivre l'Évangile au milieu des non-chrétiens, nous nous sentons souvent comme Paul, non ? Faible, craintif, largement pas à la hauteur, pas convaincant dans les mots souvent maladroits que nous partageons, et même des fois pas toujours totalement convaincus nous-mêmes, malhabile dans les actes d'amour de la part de Dieu que nous partageons. Paul était aussi dans ce cas-là. Oui, le grand apôtre Paul. Je me sentais bien faible et je tremblais de crainte, dit-il. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ce n'est pas juste de la fausse modestie de sa part. Mais Paul avait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La connaissance du Sauveur et toutes les conséquences bien réelles dans sa vie. Le pardon des péchés, et il en avait un certain nombre à se faire pardonner, dit le persécuteur. Le salut, le sens de la vie, il savait effectivement désormais pourquoi avancer. L'espérance de la vie éternelle, l'amour de Dieu, son soutien, sa fidélité, sa grâce. Et c'est ça que Paul a partagé. Développons-nous aussi notre connaissance du Sauveur, Jésus-Christ ressuscité, et vivons, désirons vivre enfin, afin d'effectivement les vivre toujours plus chaque jour, les conséquences bien réelles de Christ dans nos vies. Nous avons Jésus-Christ crucifié. nous avons aussi Jésus-Christ crucifié. Et Paul avait le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et son partage de l'Évangile reposait donc sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Tant de fois où on ne s'est pas senti à la hauteur, et on l'était peut-être pas d'ailleurs, tant de fois où nos paroles semblaient maladroites, nos actes malhabiles, mais où Dieu a agi. Dieu a agi. Une action manifeste de la puissance de l'Esprit plutôt que de beaux discours. L'œuvre puissante du Saint-Esprit en contraste flagrant avec sa propre faiblesse évidente. Un peu ou beaucoup comme nous des fois. Non ? Plusieurs de nos traductions, la famille des Bibles Second notamment, disent « une démonstration d'esprit et de puissance ». Le grec a effectivement un mot qui est aussi équivalent à notre conjonction de coordination « et ». L'écrire tel quel pourrait prêter à confusion en laissant croire qu'il aurait pu y avoir une démonstration de puissance à part ou indépendamment de la démonstration de l'esprit. Ce qui ne serait évidemment pas correct. Je ne vais pas entrer dans le détail, hein, mais le mot grec peut aussi se traduire par un « c'est-à-dire » ou carrément ne pas se traduire du tout, c'est ce que la NBS met ainsi aussi, une virgule. Une démonstration d'esprit, virgule, de puissance, associant à juste titre la puissance à l'esprit. Pas facile ce qu'on appelle l'exégèse, la compréhension et l'interprétation du texte. Quoi qu'il en soit, on se dit, peut-être alors quand même, évidemment que le témoignage de Paul a porté du fruit. Évidemment que son message a eu de l'impact. Facile avec des miracles. C'est souvent instinctivement ce qu'on se dit ou ce qu'on se représente comme la démonstration de la puissance de l'esprit, miracle ou en tout cas manifestation que l'on qualifierait usuellement d'extraordinaire. Et on a raison, l'œuvre du Saint-Esprit est toujours extraordinaire. L'œuvre du Saint-Esprit est toujours extraordinaire et donc par essence miraculeuse. Dans le sens de non naturel, car dépassant la capacité humaine propre et étant action de Dieu. Pas nécessairement dans le sens de prodige, au sens où on l'entend. Paul a assurément fait des miracles à Corinthe, et gloire à Dieu. Dieu en a fait par son entremise, pour être plus exact, et c'est ce qu'il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Les marques de l'apôtre ont été produites parmi vous avec une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Mais nulle part, nous n'avons de détails ou de récits plus explicites, notamment rien dans le livre des Actes qui confirme, pourtant que Paul est bien resté longtemps, hein, 1 an et demi à Corinthe la première fois, puis probablement 1 ou 2 ou 3 mois dans un deuxième voyage. Mais sans minimiser l'importance et l'existence de ces miracles, la parole ne semble pas vouloir mettre cela en avant, à la différence du séjour à Éphèse, par exemple. Où là, il y a eu de nombreux miracles, avec moult détails du quand, quoi, comment, où, qui. Je pense que c'est évidemment volontaire. À Éphèse, dans la province d'Asie, Dieu, par la parole, souhaite clairement souligner le problème d'idolâtrie, de magie, d'occultisme qu'il y avait là-bas. Et les miracles de Dieu ont été particulièrement leur place dans ce contexte. La puissance de Dieu agissant ainsi visiblement bien au-delà de la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres, entre guillemets. Ténèbres, pas entre guillemets, mais puissance des ténèbres, entre guillemets. À Corinthe, sans dire qu'il n'y avait pas de problème de divinité païenne ou d'occultisme, loin s'en faut, la parole met plutôt en avant le problème de fascination des Corinthiens pour l'extraordinaire, justement, ce qui frappe les yeux. Leur fascination pour le sensationnel, y compris comme pour le parler en langue, parmi les dons de l'esprit, notamment. Ou encore leur attrait pour l'éloquence et la prestance humaine, pour le paraître. Alors je pense que volontairement, l'extraordinaire est laissé au second plan. Et Paul met plutôt sur le devant de la scène les problèmes de mœurs, de débauche, de jalousie, de dispute, d'orgueil, d'inconséquence, d'immaturité. Il y avait un certain nombre de problèmes à Corinthe. Ils étaient nombreux, y compris dans l'Église et dans la vie des chrétiens. merveilleuse à propos de l'Esprit en toutes circonstances. Dieu est toujours pertinent. Là où il faut des miracles, Dieu fait des miracles. Là où c'est un autre type de guérison qu'il faut, Dieu ne fait peut-être pas les miracles de manière aussi apparente, mais il agit. Dieu adapte sa façon souveraine d'agir aux besoins exacts des personnes concernées. Et mon invitation, c'est pour nous également de ne pas restreindre l'Esprit dans sa liberté d'action, en lui imposant ou en lui interdisant ou en suggérant a priori une façon de faire. Ainsi, à Corinthe et dans notre passage, je rejoins plutôt les commentateurs qui voient dans la démonstration de puissance de l'Esprit dont Paul parle et qui a été effective, bien réelle, je vois plutôt son action sur les âmes, par le moyen de la parole, la conviction de péché qui va transformer les Corinthiens. Moi, je dis que ça, c'est du miracle et de la puissance qui chasse les ténèbres. La consolation et la paix du pardon, la réconciliation, la force nécessaire pour être affranchi de l'esclavage, de la corruption du monde, l'intelligence toute nouvelle de vérité divine dont on n'avait même pas l'idée. Le Saint-Esprit fait tout cela avec puissance. Voilà ce que Dieu a commencé et continuera à Corinthe, comme je l'espère à Thonon et partout ailleurs. Voilà, je pense, quelques démonstrations de la puissance de l'Évangile que produit l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je crois que Paul oppose ici à des discours rendus persuasifs par les artifices d'une éloquence humaine qui, eux, ne changent pas du tout ni les cœurs, ni les vies. Évidemment, l'un, l'action plus discrète de l'Esprit, la puissance du changement des cœurs, n'empêche pas l'autre. Son action plus visible et percutante, la puissance du miracle. Et donc, surtout, que nous n'empêchions ni l'un ni l'autre, par nos a priori, quels qu'ils soient, laissons l'Esprit agir. Voilà, je pense, le maître mot. Laissons l'Esprit agir en nous et par nous, comme il le veut. Comme il le veut. Si l'Esprit veut faire maintenant un miracle dans le sens d'un prodige, une guérison miraculeuse, ce qu'il veut, parce qu'il le juge utile et nécessaire pour son œuvre en quelqu'un ou dans notre Église, qu'il le fasse. Ne soyons pas obstacle à cela. Ou peut-être que le Saint-Esprit, accordera à quelqu'un un don temporaire ou durable pour cela. Nous sommes à son service. À l'inverse, peut-être que l'Esprit décide que son action se fera sans prodige, entre guillemets, pas d'autre que nos conversions et nos vies transformées petit à petit. Ça tient déjà du miracle, je le redis, mais quoi qu'il décide, gloire à Dieu. Quoi qu'il décide, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit agit toujours puissamment. Laissons-le agir comme il le veut. Facile, hein, nécessairement, avec les a priori ou les envies qu'on aurait, ou les craintes. La clé, certainement, on l'a déjà dit et redit, c'est de vouloir. Vouloir la sanctification. On le répète souvent, régulièrement, l'action puissante de l'Esprit est effectivement parfois, souvent, trop entravé par moi, mon inertie, ma réticence, mes résistances. Quand je dis moi, c'est les vôtres aussi. Hein. Consciente ou inconsciente. Volontaire ou involontaire. Et on le voit particulièrement dans l'exemple, ou faudrait-il plutôt le contre-exemple des Corinthiens. Franchement, ces Corinthiens, trop nuls, quoi. Mais peut-être que nous leur ressemblons sous certains égards. Le chemin de vie chrétien, de vie chrétienne, vers la maturité spirituelle, vers la ressemblance et la perfection de Christ, n'est pas automatique. Nous le savons en effet, si je peux le dire comme ça, notre avancement ne se fait pas sur la base de notre ancienneté. Notre avancement ne se fait pas que sur la base de notre ancienneté. Nous enseignons une sagesse parmi les parfaits, dit le verset 6 que j'ai lu tout à l'heure. Cette sagesse ne m'y attarde pas, nous l'avons compris, je pense, c'est l'Évangile qui est une sagesse, et bien plus que n'importe quelle sagesse des hommes. Il est la sagesse de Dieu, le plan parfait de Dieu de toute éternité. Avant l'origine du mal, le remède était préparé. On pourrait évidemment passer des heures à se questionner pourquoi le mal, mais je pense qu'il est mieux de saisir sans tarder la solution offerte en acceptant la révélation de l'Esprit. Mais par contre, les parfaits, ce mot m'a intrigué. Alors, il n'est pas dans toutes les traductions. Hein. Nous enseignons parmi les parfaits, c'est Louis II qui traduit comme ça, parmi les gens accomplis, dira la Nouvelle Bible Second, en mettant elle-même des guillemets au mot accompli. La Seconde 21 comporte parmi les hommes mûrs, et la Semeur dit aux chrétiens spirituellement adultes. Le mot grec qu'utilise Paul veut effectivement dire parfait, accompli, achevé, adulte. Étymologiquement, ça serait quelqu'un ayant atteint l'objectif, ayant atteint le but. L'opposé du pécheur, alors, parce que le pécheur, lui, rate la cible. Et pourtant, quand on considère les Corinthiens, hein, Paul le dit un peu après, « Je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits enfants dans la foi en Christ. » C'est pourquoi je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Les Corinthiens ne sont visiblement pas des parfaits. Ils sont même plutôt loin de la maturité spirituelle. Certains commentateurs en déduisent de l'ironie dans cette expression de la part de Paul face à ces Corinthiens croyant être adultes, alors qu'ils ne le sont pas. Au contraire, ce ne sont malheureusement que des bébés spirituels. Leur comportement le montre. Peut-être est-ce cela qu'il faut comprendre. D'autres nuances en disant qu'il y avait des bébés spirituels, oui, mais aussi d'autres qui ont grandi et qui sont capables de comprendre le sens des mots de Paul. Mais qui est parfait, franchement? Qui est parfait? Je faisais un petit sondage ce matin. Nul doute que notre modestie nous empêcherait de lever la main. Objectivement, ce ne serait pas qu'un problème de modestie. Qui d'entre nous se sent parfait, accompli? Personne n'est parfait. Personne n'est encore arrivé à la stature parfaite de Christ. Je ne voudrais pas balayer nos illusions, mais dans l'absolu, aucun d'entre nous n'y arrivera jamais. Jamais! Au cours de sa vie terrestre. Même avec près 80 ans ou plus de loyauté et de fidèle vie chrétienne, nous y serons peut-être presque, mais presque de très 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 loin quand même. Les parfaits. N'était-ce donc qu'ironique ? Ce serait quand même un peu triste, non ? Faut-il être défaitiste en considérant cela ? Pessimiste, juste réaliste. Philippiens, chapitre 3, verset 12. Paul qui parle. Certes, je n'ai pas encore reçu ou saisi. Alors, le quoi n'est pas explicite dans la phrase. Alors, souvent, on rajoute je n'ai pas encore saisi le prix. Ou les traductions rajoutent des mots, mais dans le verset, il n'y a pas. Il n'y a rien. On va discuter de ça maintenant, mais je ne l'ai pas mis volontairement. « Je n'ai pas encore été rendu parfait, dit Paul, mais je poursuis pour saisir, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je ne considère pas avoir saisi, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant vers ce qui est en avant, je poursuis vers le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Je n'ai pas encore été rendu parfait. Et oui, même Paul devait arriver à cette conclusion. Il devait avancer sur le chemin de la sanctification et n'était pas encore arrivé. Et en même temps, comme Jésus l'avait saisi déjà, il était déjà parfait aussi. comme nous tous, qui sommes parfaits, dit-il. Tout en ayant cette même pensée de poursuivre inlassablement, résolument, vers le prix de son appel céleste. Des imparfaits parfaits, ou des parfaits imparfaits, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. En sanctification, bien que saint, c'est une autre façon de le dire. Parfaits, nous le sommes parce que nous avons reçu Christ par la révélation et la conviction de l'Esprit. Car Christ nous a déjà saisis, comme dit Paul. Et cela, en cela, nous avons déjà atteint le but, par la seule grâce de Dieu. Oui, nous sommes parfaits par Christ ou en Christ. Mais pour Paul, être parfait, c'est aussi être un chrétien mûr, un chrétien ou une chrétienne dont la vie s'enracine dans la pensée de Christ et qui suit son exemple, et en particulier pour ce qui concerne les Corinthiens dans le domaine des relations communautaires et de mœurs. Alors il y a assurément du déjà et du pas encore, du déjà et du pas encore, on le dit souvent et on le répétera souvent. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons l'essence même, le principe de l'imperfection, et déjà, jusqu'à un certain degré, la maturité, la stature du chrétien mature. Et Dieu veut que nous grandissions en cela. Dieu le veut. Et nous ? Toujours la même question. Hein ? Et nous ? Tout le potentiel est là, car nous avons le Saint-Esprit. Pas juste un avant-goût, pas juste un petit bout. Le Saint-Esprit, l'Esprit même qui vient de Dieu, disait Paul, avec donc toute la puissance intrinsèque à l'Esprit. Et la volonté, le plan de Dieu est bel et bien que nous vivions cette perfection. Et c'est un projet qui s'accomplit. Mais surtout un projet qui s'accomplit si nous le voulons. Un projet qui s'accomplit si nous le voulons. La sanctification réelle et effective, ce ne sera pas degré ou de force, mais ça doit être degré. Ça doit être voulu, désiré, aspiré, prié. Paul y tend, il poursuit, il veut cela. Et nous. En tout cas, l'Église a été conçue par Dieu pour cela. Ouais, bien que nous soyons encore tous très imparfaits. Pour nous aider à grandir en cela, à nous édifier, à nous rendre parfaits, c'est ce que Paul dit encore dans l'Éphésiens. Je résume le contexte. Dieu a donné les dons et les ministères dans l'Église afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait. C'est le même mot, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la plénitude de la stature de Christ. Alors édifions-nous les uns les autres à cela. Encourageons-nous les uns les autres à cela. Prions ensemble, avertissons-nous, fortifions-nous, relevons-nous. C'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas juste une ironie ou une blague de sa part. C'est la volonté de Dieu. On regardera ça plus la prochaine fois, parce que ça tourne, je parle trop. Mais peut-être croyons-nous que c'est impossible, que c'est de la folie. Au jeune homme riche, au jeune homme dont l'attachement aux richesses semblait être le problème, Jésus a dit, « Si tu veux être parfait, » c'est toujours le même mot, « Si tu veux être parfait, » va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Pensez-vous que ce n'était pas sincèrement ce que Jésus souhaitait pour cet homme ? Atteindre le but, résoudre son problème ? Atteindre ce but, être parfait ? Être parfait ? Je crois que si, Jésus le veut, et pas juste dans un absolu inatteignable, dans le concret aussi du quotidien. Si Dieu, et Jésus en particulier dans les évangiles, nous demande des choses impossibles, on en parlait encore à l'étude biblique jeudi dernier, Ce n'est pas juste pour nous embêter, pas juste pour nous décourager ou nous faire comprendre que nous sommes loin du compte. Moi, je crois, j'affirme que c'est parce qu'il veut que nous y arrivions. Il veut nous y aider, et le Saint-Esprit est là pour ça. En chacun et chacune d'entre nous, demandons-lui de nous débarrasser de ce qui fait obstacle. Demandons-lui de nous débarrasser de ce qui fait obstacle. Aspirons à vivre cela. Confessons ce qui nous en empêche. Reconnaissons ce qui nous bloque, ce qui empêche son règne. Péché en tout genre, orgueil, égoïsme, paresse, doute. Peut-être aussi préoccupation, fatigue, souffrance, épreuve. Seigneur, fais-nous grandir. Seigneur, fais-nous grandir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce une folie, une folle utopie ou la sagesse ? L'Évangile, en tout cas. Soyez donc parfaits. Tiens, quel hasard, c'est le même mot. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le même qualificatif pour les gens à qui Jésus s'adresse que celui qu'il donne à Dieu le Père. Soyez donc parfait. Est-ce une folie ou la sagesse ? C'est l'Évangile, en tout cas. Et quand Jésus dit ça, il n'est pas ironique. Il ne dit pas ensuite, « Mais non, je rigole, je ne vous le demande pas vraiment. Je sais très bien que c'est impossible pour vous. » Non, Jésus donne là un commandement qui n'est pas de la rigolade. Un commandement qui est bel et bien le projet de Dieu pour moi, pour nous. Les païens considèrent l'Évangile comme une entière folie. Les chrétiens encore immatures considèrent des parties de l'Évangile, certains versets, comme une folie, une impossibilité. Les chrétiens matures voient l'Évangile, l'entièreté de la parole, comme sagesse de Dieu, même ces commandements-là, pour lesquels il demande sans cesse la grâce et l'aide de Dieu pour pouvoir le vivre au quotidien, évidemment. Mais ils veulent ardemment vivre cet évangile par l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, j'ose dire que c'est possible. Pentecôte a vraiment amené une révolution, non ? Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? J'arrêterai là. Pas évident, hein ? C'est vrai qu'on en discutait cette semaine, on se dit, non, mais... On sait bien que Dieu nous le demande, mais on sait que c'est aussi impossible. Moi, je crois que c'est le plan de Dieu. Prions. Seigneur, trop de choses encore que tu nous demandes, que tu donnes comme promesse ou comme commandement, avec l'aide du Saint-Esprit aussi pour arriver à mettre en œuvre ces commandements. Trop de choses encore, je les trouve folles. Non, c'est trop de la folie, Seigneur. Jamais je n'y arriverai, jamais ça sera possible. Trop exigeant, trop au-delà de mes possibilités, même si tu agissais dans ma vie. Pardon, Seigneur, pour tous ces doutes. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je te restreins. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas cette confiance de m'abandonner à toi. Bien sûr que plein de choses sont impossibles. Je dois les reconnaître impossibles par mes propres moyens, ça c'est sûr. Mais dans cette pleine confiance que toi, tu es le Tout-Puissant, et que toi, le Tout-Puissant, tu vis en moi par ton esprit. Et donc, tu peux faire des choses extraordinaires. Agir puissamment. Seigneur, comme à Corinthe, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de notre Église, oui, démontre la puissance de l'Esprit. Seigneur, c'est mon désir, ma demande. Mais tu connais aussi toutes mes réticences qui viennent rapidement un peu réduire ce désir. Oui, Seigneur, prends toute la place dans ma vie, dans nos vies. Agis puissamment. Que nous ne te restreignions pas dans ton œuvre, que nous ne mettions pas d'obstacles. Balaye en nous tout obstacle à ta volonté, tout obstacle à ton action, tout obstacle à la transformation que tu veux faire, à la sanctification dans laquelle tu veux nous faire grandir. Merci de ta patience, merci de ton pardon, merci de ton aide, merci de ta fidélité, merci de ton amour. Oui, Seigneur, que nous rayonnions de ta présence, non pas pour nous glorifier, mais effectivement pour pouvoir nous glorifier, avoir notre fierté en Christ, et partager Christ, partager tout ce que tu veux faire dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus malade, ou plus dans l'épreuve, ou plus dans la difficulté. Nous serons remplis de ton esprit pour les traverser. Remplis de ton esprit pour pouvoir être soutien envers celles et ceux qui traversent ces difficultés. Remplis de ton esprit pour être pleinement dans la paix et dans la joie de ton salut malgré tout. Pour être dans la paix et dans la joie face aux difficultés, aux tentations, tout ce qu'il peut y avoir dans nos quotidiens. Et être lumière là où tu nous places. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Et nous voulons regarder à toi et non pas regarder à nous-mêmes. Nous voulons te ressembler. Et c'est possible par ton esprit en nous. Merci encore pour ce projet extraordinaire. À toi toute la gloire dans nos vies, en Jésus-Christ. Amen.